tout de suite. Retrouvez le créneau série sur Radio Bartas. Vous écoutez le créneau série sur Radio Bartas avec le faux procès du loup. Pour ce 8e épisode, vous pourrez entendre la deuxième plaidoirie par l'avocat général François-Louis Coste.
L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Je vous remercie, monsieur le président. Et je tiens tout de suite, au début de mon propos, à remercier également les personnes qui ont eu l'idée de ce vrai-faux procès, à remercier celles qui l'ont organisé, qui l'ont mis en œuvre, et puis à remercier aussi et surtout ceux qui, dont on a entendu les témoignages tout à l'heure, et Maître Barthélémy avant moi, dont je vous demande surtout de ne rien oublier de tout ce qu'elle a dit lorsque j'aurais modestement parlé. Modestement parce que, au fond, je vais vous dire des choses peut-être plus austères, c'est le mot qui convient. Quoi qu'il en soit, requérir à l'occasion du vrai-faux procès du loup, ça m'a d'abord plongé dans un abîme de perplexité, car on est tenté au début de se dire « je solutionnerai la question par la formule habituelle, application de la loi ». Oui, mais tout de même, c'est le loup qui est en cause. Or, la loi est l'expression de la volonté générale. Ça n'est pas l'expression d'un hurlement général, ni d'un bêlement général. Alors, il faut finalement parler au loup par l'intermédiaire des hommes. Et ils attendent quelque chose. Alors, je me suis dit que peut-être n'était-il pas impossible, sinon de résoudre, au moins d'éclairer la question, en commençant tout simplement par distinguer l'animal sauvage de l'animal domestique. L'animal domestique, étymologiquement, c'est intéressant, c'est celui qui dépend d'un dominus, d'un maître, et donc qui est attaché à la domus, à la maison du dominus, ou à son domaine, au domicile, au domaine, au dominus, au maître. De sorte que c'est important parce que cet attachement, quel que soit l'animal finalement, quand bien même aurait-il un loup en cage, cet attachement fait que c'est la personne elle-même qui est responsable des dommages et des agissements que l'animal peut causer. Responsable civilement, c'est l'article 1385 du Code civil. Mais responsable aussi, le cas échéant, pénalement. C'est une contravention que de laisser divaguer son animal, son chien en particulier, et d'ailleurs, c'est surtout à l'occasion ou à propos des chiens que la législation a évolué. Exciter son chien contre quelqu'un, c'est une contravention qui n'est plus de troisième classe, mais de quatrième ou de cinquième classe, si je ne m'abuse. Et s'il en résulte des dommages, ça devient un délit. Et ça peut même être un crime si l'animal a été utilisé délibérément comme une sorte d'arme, un moyen de tuer. Donc, ce lien entre l'animal attaché à un maître a des conséquences évidentes quant à la responsabilité. L'animal sauvage, quant à lui, est son propre maître. Nul n'en est responsable. Et c'est le cas du loup. Alors, longtemps, le loup fut considéré, assurément, comme une bête sauvage, une véritable calamité dont il fallait se prémunir. Sauf un, François d'Assise. Sauf lui, à propos ou en face d'un loup à Gubbio, dit la légende ou l'histoire, je ne sais, sauf lui, tous s'accordaient à dire que contre une telle bête, les moyens les plus radicaux étaient les meilleurs. Alors, il fallait, et c'était assez logique au fond, il fallait prévenir. Puisqu'il n'y avait pas de responsable, on ne pouvait pas guérir. Surtout lorsque la mort en était survenue. Donc, prévenir, c'était par les moyens les plus radicaux, évidemment, tuer le loup. Mais nous sommes en France et pendant l'entre-deux-guerres, le loup a disparu. Il a disparu et il n'habita plus que l'imaginaire. Lorsqu'en 1945, Edmond Calvo dessine une bande dessinée aujourd'hui un peu oubliée, une sorte de précurseur de Maus. En 1945, j'ai bien dit, n'est-ce pas ? 45, il dessine « La bête est morte ». Il dessine en réalité le nazi sous la forme et les aspects d'un loup. La bête est morte, le loup est mort. Et à ce moment-là, de façon définitive, semble-t-il, le loup peut redevenir un personnage de conte pour enfants. Ça n'est plus lui qui fait peur. C'est la plume de Perrault ou c'est la musique de Prokofiev qui font frémir. Et mon Dieu, quel plaisir n'y a-t-il pas à frémir quand on entend la musique de Prokofiev ou les contes de Perrault racontés avec le charme que cela inspire. Alors, pour nos gouvernants de l'époque, lorsque le 19 septembre, là je vais suivre un peu la chronologie, lorsque le 19 septembre 1979, la France signe la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, se sent-elle concernée par le loup ? Il est mentionné à l'annexe 2, bon, dans une liste assez abondante, Canis lupus. La France ne se sent pas du tout concernée par cet animal disparu maintenant depuis 1900, même avant 45, 1936, semble-t-il, le dernier loup est abattu. Alors, pense-t-elle qu'il va revenir ? Non, on n'y pense pas. Ça a été dit d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de ces débats. Et l'article 1er de cette convention de Berne dit qu'il s'agit d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvage et de leur habitat naturel. Les articles 2 et 3 parlent de maintenir ou adapter la population de la faune sauvage et bien sûr de prendre les mesures nécessaires à leur conservation. Mais nous sommes en 1979. Qu'est-ce qu'il y a à maintenir, à adapter, à conserver ? Rien. Il n'y a plus de loup. La France peut assurément se sentir totalement étrangère aux préoccupations de cette convention. Il n'y a plus rien à adapter. Alors, pour nos gouvernants de l'époque, les dispositions de l'article 11 de cette convention, destinées à permettre la conservation d'une espèce menacée d'extinction, ça ne concerne pas plus la France que l'Irlande, par exemple. Il n'y a plus de loups en Irlande, depuis 6 siècles. Alors, pourquoi ça concernerait davantage la France que cette île ? Alors, ce n'est que avec le décret du 22 août 1990 que la Convention de Berne est publiée au journal officiel de la République française et entre donc en vigueur en France. Et concerne à ce moment-là nos concitoyens. Mais deux ans plus tard, intervient la directive Habitat, dont on a parlé aussi, relative à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvage. Son article 12 prévoit qu'avant le 21 mai 1994, prévoit donc qu'avant cette date, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales. Et c'est à la liste, à l'annexe 4 que l'on trouve le loup. Et puis le 11 janvier 1993, un loup est observé en France par deux gardes assermentés qui en dressent procès-verbal. Le loup a franchi la frontière. Et c'est à ce moment-là que... Alors, on cesse à Tende, sur le parc du Mercantour, et donc on est à la frontière avec l'Italie, assurément. Il semble qu'il y ait déjà eu des loups, alors qu'ils venaient d'où ? Enfin, qu'ils venaient d'où ? Qu'ils venaient de quel maître ou de quelle absence de maître ? On ne sait pas trop. Mais il est certain que le loup ne connaît pas les frontières et les panneaux d'indication, il était vraisemblablement déjà venu auparavant. Mais, c'est la différence, il n'avait pas été observé par deux gardes assermentés. Au fond, c'est ça qui compte. C'est l'activité des gardes plus que le loup, bien sûr. Alors, le 22 juillet 1993, donc quelques mois plus tard, vite le ministre chargé de la protection de la nature, signe un arrêté inscrivant le Canis lupus sur la liste des espèces protégées en France. Autrement dit, on introduit dans le droit français la protection du loup qui restait dans les textes internationaux ne concernant plus que les États. Mais là, ça y est, ça va concerner les citoyens. On était le 22 juillet 1993. Problème. Voilà que le Conseil d'État va être saisi d'une affaire et annule cet arrêté de 93. C'est un arrêt du 31 juillet 1996. Oui. Pourquoi il annule ? Parce qu'il aurait dû être co-signé par le ministre de l'Agriculture. Or, le ministre de l'Agriculture, est-ce par omission ? Est-ce par malignité ? N'avait pas signé. Il est vrai qu'il arrive parfois que dans une équipe gouvernementale, il puisse y avoir des divergences de point de vue. Mais nous n'en saurons pas davantage, ils ne s'exprimeront pas, et donc il faudra attendre le 10 octobre 1996 pour qu'un nouvel arrêté, enfin, soit pris, signé par les deux ministres. On est donc 3 ans après l'observation du loup par les gardes assermentés et 2 ans après le délai, l'échéance qu'avait fixée la directive aux États membres pour prendre les mesures nécessaires. Mais bon, donc là, assurément, la France est en retard. Alors, en tout cas, jusqu'à cette date, le loup n'avait aucun statut juridique. Et la justice elle-même avait eu l'occasion de le dire. Alors, peu importe d'où venait le loup de Fontan, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le tribunal correctionnel de Nice avait été amené à juger et avait dit Si l'on peut regretter d'une façon générale l'absence de statut précis et de protection spécifique en France du loup à la date des faits, il faut considérer que la destruction le 27 décembre 1987 d'un animal lui-même devenu nuisible, il avait mordu ou mangé un agneau, la destruction n'est pas un fait générateur de responsabilité civile pour le chasseur. La destruction du loup n'est pas un fait générateur de responsabilité. Autrement dit, tant que le loup ne figurait pas sur la liste française des animaux ou des espèces protégées, et donc jusqu'en octobre 1996, le loup était un animal nuisible, tout le monde s'accordait à le dire et à le reconnaître, et donc il pouvait être librement abattu à l'initiative de n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. On en est là en 1996. C'est-à-dire que, après, à partir du moment où le loup va être mentionné comme espèce vulnérable à protéger, il y a une révolution totale à accomplir dans les esprits, dans la culture, dans la façon de vivre, de s'organiser. Et comme il a été dit au long de ces débats, est-ce qu'on peut, comme cela, passer du blanc au noir ou du noir au blanc, comme vous préférerez, sans transition, sans préparation, sans rien? La révolution a été totale. On est passé de l'interdiction absolue, on est passé de la liberté absolue, pardon, à l'interdiction radicale. En tout cas, depuis l'arrêté du 10 octobre 1996, la protection du loup a un double effet. D'une part, l'État doit supporter les conséquences dommageables que l'animal peut causer, au troupeau particulièrement. Vouloir protéger, c'est aussi dire que l'on assume la responsabilité du responsable dont je vous parlais tout au début de mon propos. Et à cet égard, responsabilité du gardien, ça va être notamment de payer. Et puis d'autre part, l'État doit aussi veiller à la préservation des équilibres pour qu'au nom de la protection d'une espèce dite vulnérable, les autres activités sociales, économiques, pastorales ne soient pas mises en danger. Et d'autant que ces dernières activités, notamment pastorales, concourent depuis toujours à la biodiversité, c'est certain. Alors, quant aux conséquences des dommages, la question, l'État indemnise-t-il convenablement? Les témoignages que j'ai vus, entendus ou lus ou étudiés au cours de ma préparation de cette audience ne me convainquent pas d'une grande générosité, et ça a été dit à tout point de vue, à tous égards, on ne répare pas tout uniquement avec de l'argent. Alors, et puis, il y a des délais relativement longs, me semble-t-il. Bon, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas notre problème aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire le procès de l'État, mais celui du loup. Donc, l'autre question, c'est le maintien des équilibres. Et il est vrai que le maintien des équilibres auxquels obligent les textes, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, aussi bien en droit qu'en fait. En droit, l'article 6 de la Charte de l'environnement est intéressant. Il donne l'objectif. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elle concilie la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Ça fait beaucoup de choses à concilier. Alors, c'est donc une recherche permanente d'équilibre, une recherche de compromis, nécessairement, et une recherche qui, par conséquent, oblige à la prudence. C'est une façon de dire, ménagez tout le monde, soyez prudents dans vos politiques publiques. Mais alors, bien évidemment, certains dénoncent l'ambiguïté dans les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises comme d'aucuns le souhaiteraient. En tout cas, dans la logique de cette recherche de l'équilibre, et en reprenant les termes de la Convention de Berne, le Code de l'environnement pose d'abord le principe de l'interdiction générale de détruire, d'altérer ou de dégrader une espèce animale protégée. Mais, comme la Convention le permet d'ailleurs, l'article suivant du Code de l'environnement, on est à l'article 411-1 pour l'interdiction de principe, donc les articles 411-2 et-2 prévoient les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de principe. Et c'est le cas lorsqu'il s'agit de prévenir des dommages importants aux cultures et à l'élevage. Pourvu, est-il dit, qu'il n'y ait pas d'autre solution. Pourvu qu'il n'y ait pas d'autre solution. C'est la formule écrite dans le texte. Alors là, c'est la porte ouverte à toutes les imaginations. On va vous imaginer, vous inventer toujours d'autres solutions, du moins lorsqu'on a envie, bien sûr, de sauver la peau du loup. Alors là, et le conseil, enfin les juridictions administratives sont incessamment saisies de multiples recours, parfois d'ailleurs avec succès, parce que c'est compliqué. Mais c'est faisable de motiver un arrêté, ça n'est pas toujours très bien fait. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est le problème des juridictions administratives. Ça, c'était pour la recherche des équilibres en droit. Vous voyez que les conditions sont complexes. Mais alors, en fait, la recherche des équilibres aujourd'hui, en France, c'est donc la recherche d'une conciliation entre les intérêts que présentent respectivement le carnassier, Canis lupus, et les ovins, et les caprins, les ongulés. C'est ça, la recherche de l'équilibre, comment faire en sorte que les intérêts des uns et des autres espèces soient conciliés. Il est vrai, il est certain, et c'est une question évidente, que le fait d'appartenir à une espèce protégée ne donne au loup aucun titre à se développer au détriment des autres. Ça serait parfaitement et profondément injuste. Je vous rappelle que nous sommes dans un palais de justice. Donc ne consacrons pas l'injustice. Alors, qu'est-ce qu'une espèce protégée finalement ? C'est une espèce légalement protégée. Elle l'est pour des raisons d'intérêt scientifique, bien sûr, ou pour des nécessités de préservation du patrimoine biologique. Mais alors, c'est deux raisons qui suscitent des questions pratiques difficiles. Alors, d'abord, en quoi ? C'est des questions que je pose, que je vous renvoie, auxquelles il faudra que vous trouviez une réponse, si vous voulez, selon le sens que vous donnerait à votre verdict. Mais en quoi le maintien d'un effectif contingenté, bien sûr, et réduit nécessairement, en quoi ce maintien contingenté et réduit d'un effectif de loups serait-il de nature à nuire à la science ou au patrimoine biologique ? Le loup, il peut être étudié dans les régions où il pullule et où, apparemment, les nuisances qu'il provoque n'émeuvent personne. Donc il y a, sur la planète, des endroits où la science peut se développer, la science lupine peut se développer sans difficulté. En tout cas, pour l'étudier, moi j'observe que pour l'étudier, en effet, les scientifiques anglais n'ont pas éprouvé le besoin de ramener des loups sur leur île. Et pourtant, ils l'étudient. Et ils l'étudient bien, semble-t-il. Et puis, en quoi, il faudra répondre à cette question aussi, en quoi la Grande-Bretagne et l'Irlande, tiens, partis à la Convention de Berne, forcément, et qui ont détruit, fait disparaître le loup depuis 600 ans. En quoi donc la Grande-Bretagne et l'Irlande, ou en quoi aussi la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas partie à la Convention, mais qui a 9 moutons par habitant, si j'en juge par les chiffres que j'ai pu relever. En quoi ces pays pâtissent-ils de l'absence de loups? Je sais, je n'ai pas trouvé la réponse. Personne ne dit nulle part que la Nouvelle-Zélande est en grande souffrance faute de loups. Je n'ai pas entendu dire. Alors, où trouverais-je l'étude qui explique pourquoi la biodiversité de ces îles gagnerait à la présence du loup? Parce que, quand même, si le loup est intéressant, alors pourquoi serait-il intéressant en France et ne serait-il pas intéressant en Nouvelle-Zélande? Je ne sais pas. Alors, que le loup puisse avoir une utilité, je veux bien l'admettre, ne serait-ce qu'esthétique, d'ailleurs, ou fantasmatique. C'est aussi une utilité, on a tous besoin de fantasmer un peu. Mais qu'il soit indispensable, l'histoire des îles britanniques, pour ne s'en tenir qu'à elles, n'en apporte absolument pas la preuve. Alors enfin, le loup coûte cher. Je vous ai apporté le chiffre. Hein. 2 617 632,59 €. On est en 2015. On écoute tous les jours, plus ou moins, les informations ou on les lit dans la presse. On cherche de l'argent partout. Partout. J'ai fait un petit calcul. Oh! C'est pas très malin comme calcul. Mais il y a des gens qui seraient contents de gagner 1 500 € par mois. 1 500 € par mois pendant un an. Combien de personnes peuvent être payées avec les 2 617 000 et quelques ? 145, je vais le calculer. 145. C'est pas inintéressant, ça. Et puis encore, dites donc, on va accueillir bientôt des réfugiés. Ils fuient tous les malheurs du monde, des situations qu'on ne voudrait surtout pas assumer nous-mêmes. On va avoir besoin d'argent aussi pour les accueillir. Alors, vous choisissez le loup ou vous choisissez un peu d'humanisme? Et le loup coûte cher, mais que rapporte-t-il à l'économie nationale? Qu'est-ce qu'il rapporte? Je ne sais pas. En tout cas, dans tout ce que j'ai lu, rien, absolument rien, ne me dit que la balance serait équilibrée. On n'ose même pas parler de balance, d'ailleurs. Personne n'en parle. Alors finalement, contre qui je requiers? Le Canis lupus? Non, pas franchement. Mais contre l'idole lupine. Ah ouais. l'idole lupine devant laquelle je refuse obstinément de m'incliner. Oh, j'entends certains ministres de son culte invoquer la loi d'ailleurs, comme si la loi était là pour asservir l'homme plutôt que pour le servir. La loi, la loi, la loi. La loi, nous l'avons faite pour nous permettre de vivre ensemble. Ensemble, pas nécessairement avec un animal qui menacerait notre façon de vivre. Bon, alors, j'entends donc certains ministres du culte de l'idole lupine conspuer les autorités publiques, et j'ai trouvé sur Internet cette formule souvent reprise d'ailleurs et amplifiée par quelques médias. Lâcheté, injustice, incompétence, irresponsabilité sont devenus les maîtres mots dont on puisse qualifier les autorités. Ben, c'est ce qu'ils clament, et on n'est plus dans la critique, on n'est plus dans la contradiction. On est dans l'expression agressive d'une contrariété. La contradiction qui est là et qui nous rassemble, c'est tout à fait autre chose que la contrariété qui dicte des comportements parfois tout à fait irrespectueux, voire irresponsables. Pourquoi dit-on cela ? Parce que le ministre a décidé d'autoriser de tuer 36 loups, alors que le nombre de victimes constatées, le nombre de victimes du loup constatées, serait en baisse de 813 unités, si j'en juge, par les chiffres officiels que je vous ai apportés. Et alors, selon cette statistique, en effet, du 1er janvier au 31 août 2014, on avait compté 5539 victimes du loup, et pour la même période en 2015, il n'y en avait que, si j'ose dire, 4726. Moi, je ne me résigne absolument pas à penser que, puisque ce chiffre serait en baisse de 813 unités, ce chiffre serait pour autant négligeable. Non, je ne m'y résigne pas, si bien que dans ce contexte, les objurgations me font penser aux anathèmes que proférerait un grand prêtre dont la divinité souffrirait d'une baisse, d'une diminution des offrandes qu'on sacrifie à son idole. Ah ben, non. Voilà pourquoi je pense que Canis Lupus, ainsi idolâtré, doit être condamné. Alors comment, qu'en faire ? Une suggestion m'a été donnée par M. Beauvais. Et si on modifiait le génome du loup ? Si on faisait du loup un animal paisible qui viendrait manger dans la main, qui mangerait, qui brouterait de l'herbe parmi les agneaux ? Oh, comme ça serait charmant ! Et assurément, on se retrouverait un psy dans le décor, vous savez, bucolique que l'on trouvait dans les pavillons de la reine à Versailles, qui se déguisait elle-même en bergère. On ne parle que des bergers. Pourquoi ne parlerait-on pas aussi des gentilles bergères qui caresseraient le loup ? Sucre, loup ! Bon. Alors, effectivement, la solution faisant sourire semble n'avoir pas beaucoup de succès et de chances d'être accueillie par le tribunal. Mais nous sommes dans un vrai faux procès. Alors, peut-être faut-il inventer une vraie fausse peine. Il faut cantonner le loup quelque part. Le cantonner dans un lieu qui soit en harmonie, en cohérence avec l'image dont on rappelait que certains, voire l'Église, lui avait donné. Ah, en France, sur le territoire de la République, il y a un lieu qui me paraît tout destiné au loup. telle qu'ainsi il vous a été dépeint, c'est l'île du diable.
Merci, monsieur l'avocat général. La parole est à la défense, dans l'ordre que vous voulez.
Dans le prochain épisode de la série Le faux procès du loup, vous entendrez la troisième plaidoirie avec Véronique Barnier, avocate au barreau de Lozère. À la semaine prochaine.